La marche du monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, témoins et acteurs de l'histoire. S'appelle Amal Shlomo Lucien David Ouziad et toutes et tous vivent sur une même terre, une terre sous mandat britannique promise aux Juifs et aux Arabes dont le plan de partage de la Palestine adopté par les Nations Unies en 1947 est accepté par les Israéliens et refusé par les Palestiniens et le monde arabe. Dès 1948 et la création d'Israël, la première guerre israélo-arabe succède à la guerre civile et c'est par les armes que le jeune État hébreu doit faire sa place au Moyen-Orient. Une histoire de guerre et de paix négociée puisque c'est à la suite des accords d'Oslo de 1993 que l'autorité palestinienne voit le jour, une administration préalable à un futur État palestinien. En allant à la rencontre d'Amal, de Shlomo, de Lucien, de David ou de Ziad, c'est autant de versions de l'histoire que nous allons entendre, éclairées par les analyses du politiste Denis Charby.
Alors je dirais que le nœud du conflit est un affrontement entre deux mouvements nationaux, nés tardivement à la fin du 19e et au début du 20e siècle, et qui se trouvent, et c'est ça qui fait le caractère tragique du conflit, avoir la même terre d'élections pour chacune des deux nations, chacun des deux peuples. Le peuple juif et le peuple palestinien considèrent le même territoire comme leur patrie. Que l'un appelle la Palestine, l'autre appelle la terre d'Israël.
C'est Israël au pluriel, notre second épisode documentaire avec celles et ceux que j'ai rencontrés à Tel Aviv, à Jaffa ou encore à Jérusalem. Nous retrouvons notre grand témoin Lucien Lazare, marié avec Janine depuis 1949. Il vit encore en France en 1967, lors de la guerre des Six Jours.
Lors de la guerre des Six Jours, l'ensemble de la communauté s'est mobilisé pour donner une aide à Israël. C'était surtout une aide qui consistait à verser des contributions pour permettre à Israël de se procurer les armes et pour également avoir les moyens d'accueillir les immigrants qui se pressaient à ses portes.
Ce qui est super intéressant, c'est qu'au sein même de votre famille, ça crée une prise de conscience chez vos fils, ça crée un désir chez vos fils incroyable. Comment réagissent vos deux garçons ?
Les deux garçons sont venus en quelque sorte en délégation auprès de leurs parents, de papa et maman, et leur ont déclaré « On est très heureux de grandir dans cette famille, mais maintenant, on a décidé de partir en Israël. Alors si vous venez avec nous, ça va bien. » Si vous venez pas, ben on vous écrira. Daniel, l'aîné, avait 17 ans, il était en terminale. Et Michel, le cadet, avait 14 ans, il était en classe de seconde. Et il a fallu tenir parole.
Et donc vous avez mis en œuvre cette fameuse prière qu'il faut expliquer à ceux qui ne sont pas juifs, l'année prochaine à Jérusalem.
La prière des familles juives qui célèbrent chaque année la fête de la liberté à la date de Pâques, en évoquant la sortie d'Égypte, et qui consiste à dire l'an prochain à Jérusalem, eh bien, il revenait souvent dans les conversations de nos enfants, « Vous nous faites chanter ça tout le temps, et quand est-ce que vous allez le faire ?»
1967, la guerre des Six Jours, est un tournant pour la société israélienne, parce qu'après une période qui a duré un bon mois, mais je dirais même depuis la création de l'État d'Israël, ce sentiment de la fragilité va se transformer en un sentiment de puissance. Et du coup, Israël va devenir en quelque sorte la locomotive du peuple juif.
En 1968, Janine et moi, nous avons choisi de nous rendre en Israël en bateau. Nous sommes montés à bord du Theodor Herzl, qui était le visionnaire du sionisme. C'est lui qui a créé le mouvement sioniste, qui a créé l'organisation sioniste mondiale, qui a créé l'agence juive pour Israël. parce que il nous fallait un moment de pause entre l'abandon de notre patrie, la France, notre pays de naissance, le pays où nous avons prospéré, et la nouvelle patrie où nous allons nous installer et qui nous est encore étrangère. Et je crois que ça a été bénéfique pour nous. Et comme nos deux fils nous avaient précédés de quelques semaines, nous étions attendus à Haïfa. Nos deux filles étaient avec nous et ils ont accueilli leurs parents et leurs petites sœurs. Ça a été une première familiarisation en double sens du terme avec notre nouvelle patrie qui a été très bénéfique. Alors, les petites filles ont tout de suite cherché à être comme les indigènes, entre guillemets, qu'elles trouvaient dans l'école où elles avaient été inscrites. Il s'agissait d'une école où les fillettes portaient une blouse blanche et une jupe bleue. Elles ont envoyé balader toutes leurs toilettes du passé français. Ça a été une période où elles se sont conformées à la norme locale. Mais elles ont également choisi un prénom qui ne soit pas celui qu'elles portaient à Strasbourg. L'aînée, Anne-Joël, s'est attribué le nom de Yaël, alors qu'Elisabeth a choisi Elisheva. Bref, ce sont des noms bibliques, Yaël et Elisheva.
Alors parlons de vous, Lucien Lazare. Qu'est-ce que c'est que cet homme, Lucien Lazare, juif français, qui fait son alia, qui vient à sa façon en Israël, qui s'établit avec sa femme et ses enfants, qui porte la kippa et qui dirige une école laïque?
Une caractéristique de la société israélienne que je connaissais bien avant mon établissement ici et qui m'a toujours contrarié, c'est les correspondances qui se sont établies dans cette société entre l'État, son administration et la religion juive. J'ai grandi dans un pays où l'école est laïque et où la religion ne prend aucune part. Je continue à être un admirateur et un partisan du modèle français scolaire. Et c'est la raison pour laquelle, quand s'est offert à moi la possibilité de poser ma candidature à la direction d'un établissement secondaire laïque, et j'étais heureux de pouvoir incarner dans mon activité, dans mon emploi, dans mon statut également citoyen, mon option en faveur de la laïcité de l'école et de la laïcité aussi de la société. Je souhaite qu'il y ait un décrochement de ce qui est le caractère indissoluble entre la synagogue et l'État.
Néanmoins, vous avez vous-même une pratique religieuse extrêmement importante. Vous avez étudié votre religion juive toute votre vie. Vous êtes extrêmement érudit, vous êtes capable d'enseigner l'histoire de votre propre religion. Vous êtes capable de lire et d'enseigner les livres saints. Vous portez la kippa. Pour que l'on comprenne bien, qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que vous-même, Lucien Lazare, vous vous soumettez aux lois rabbiniques. Qu'est-ce que ça signifie?
Quand je parle de ce qui est ma vie religieuse, je me définis comme orthodoxe, c'est-à-dire soucieux de la discipline rituelle qu'implique l'orthodoxie. Et ceci sans renoncer à la liberté de penser. Et dans ma famille qui est devenue très 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 nombreuse en ce qui concerne la postérité, on est très pluraliste. Il y a un peu de tout. Et effectivement, je pense que le pluralisme est une valeur juive, alors que beaucoup de mes voisins, de mon entourage, considèrent qu'au contraire, le pluralisme est une négation du judaïsme, parce qu'ils ont une conception un peu totalitaire de la religion. Ce n'est pas du tout mon cas. Je ne cherche pas à faire des adeptes de mon attachement à la discipline juive orthodoxe.
Entouré des photographies de sa postérité, c'est ainsi qu'il dénomme affectueusement sa grande famille. Lucien Lazare exprime courageusement son point de vue humaniste et laïque. Très croyant, il tient à ce que la liberté de culte reste dans le domaine privé. Et à 94 ans, il ne lâche rien, mais il se sent minoritaire face à la conquête du pouvoir par les rabbins.
En 1968, on est un an après la guerre des Six Jours.
Denis Charby.
Et au sein d'un parti national religieux, surgit une nouvelle avant-garde à la suite de l'enseignement d'un rabbin qui s'appelle Tzvi Yehuda Cohen Cook et dont l'aura les saisit parce que en mai 67, il prophétise une victoire qui permettra aux Juifs de récupérer Jérusalem, Hébron, les grands lieux du berceau biblique et juif. Et donc, fascinés par le rabbin Cook, ils vont se donner cette vocation d'être les rédempteurs de cette terre nouvellement acquise.
En 1968, lorsque la présence juive a été recréée à Hébron, je me suis joint aux personnes qui y sont allées.
Le rabbin Shlomo Aviner est un élève du rabbin Cook. Il lui a consacré des centaines d'articles et de livres. Hyperactif dans les médias religieux, il apparaît dans deux programmes de radio et de nombreux journaux, et il a également son blog vidéo. Dès 1968, il participe à la colonisation des territoires palestiniens.
Et effectivement, j'ai vu là un grand idéal de recréer dans ces lieux qui étaient le berceau de l'histoire du peuple juif. Et j'étais là-bas pendant 3-4 ans environ. Et là-bas, j'ai rencontré ma future femme. Et après un certain nombre d'années, on m'a sollicité de devenir rabbin d'un kibboutz en Galilée. La vie, pendant 7 ans environ.
À Hébron, les disciples du rabbin Cook s'établissent illégalement dans un hôtel, refusent de se laisser évacuer et exige de négocier avec le gouvernement. Parce qu'il y a d'un côté l'autorité de la loi qu'il faut faire respecter dans les territoires occupés, c'est l'administration militaire. Mais comme ces disciples de Cook se présentent d'une certaine manière comme les héritiers des pionniers des kibboutz, eh bien une certaine partie du gouvernement, mais aussi de la société israélienne, va avoir pour eux une sorte d'indulgence en disant: là, nous, on s'embourgeoise. Eux, ils continuent à tenir haut la flamme de cet esprit pionnier. Et cette ambiguïté, cette ambivalence du gouvernement va conduire à un compromis qui fait qu'on va leur dire: allez, provisoirement, vous restez là. Et il n'y a rien de plus durable que le provisoire.
Le Rav Cook exigeait que tout soit conforme à la loi. Quand on est allé à Hebron, on y allait provisoirement. Et après, on a demandé un rallongement, et encore un rallongement. Et en fin de compte, on a été logé à l'intérieur de la base militaire. Donc il est bien évident que c'est super légal. Tout a été fait de façon légale. Là où j'habite, par exemple, actuellement à Bethel, c'est un soutien financier gouvernemental. Sans ça, on ne peut rien construire, on ne peut rien faire, on ne peut pas construire des maisons, on ne peut pas construire des routes, on ne peut pas apporter l'électricité, on ne peut pas apporter de l'eau. Tout a été fait dans les plus petits détails, de façon légale. Parfois, il y a eu des initiatives avant de recevoir une autorisation. Parfois, elles ont été confirmées après coup. Et parfois, elles n'ont pas été confirmées.
Vous avez vécu vous-même, Shlomo Aviner, des situations difficiles d'expulsion ou de confrontation avec la police israélienne.
Si la police nous dit partez, immédiatement, il faut prendre ses bagages et partir. Si vous étiez venu aujourd'hui à midi, vous auriez vu que j'ai donné un cours à 30 officiers de police qui avaient des questions d'ordre moral, etc. Parce que la police, c'est nous. La police, c'est la nation. L'armée, c'est la nation.
C'est le début de la colonisation et j'entends par là, parce que le terme bien sûr est très contesté, mais j'entends par là l'idée que va s'établir un système dans les territoires où il est clair que les institutions qui s'y trouvent sont là pour servir cette minorité et non pas la majorité de la région, qui sont bien sûr des Arabes palestiniens. Alors eux s'opposeront à cette notion de colonialisme en disant « ne colonise pas une terre qui, quand on la fouille, montre bien qu'on y était ». Colonisation suppose qu'on soit totalement étranger à cette terre. Or, cette terre-là ne nous est pas étrangère. Et c'est vrai qu'à cet égard, c'est différent. Mais là où ça y ressemble, c'est que, encore une fois, tout est fait pour favoriser cette minorité. L'armée, quand elle y est, quand elle s'y trouve, elle n'est pas là pour protéger les Palestiniens, elle est là pour protéger les Juifs d'éventuels attentats.
Et là, nous revenons à l'histoire. Il faut savoir cette terre à qui elle appartient. Historiquement, c'est une terre juive. Le roi Salomon était juif, le roi David était juif, Moïse était juif, etc., etc. Et il y avait très peu d'Arabes, et cette terre était déserte. À partir du moment où nous sommes revenus, cette terre a commencé à refleurir et est devenue un jardin d'Éden. Donc, moralement, elle nous appartient. Alors, si un Arabe, à titre individuel, veut vivre ici, aucun problème. Mais s'il a une revendication nationale à la propriété de cet État, c'est une erreur.
En l'occurrence, nombreux ici ne demandent pas l'État d'Israël, mais les territoires qu'ils estiment occupés, comme ici même où nous sommes en train de discuter, Shlomo Aviner, dans la partie est de Jérusalem.
Lorsque la France donnera l'Alsace aux Allemands, nous en reparlerons, d'accord ?
Il faut bien comprendre, on ne se dispute pas une partie du territoire, chacun ayant le sien. Non. Le même territoire est conçu par le peuple juif comme la patrie, et c'est le même territoire qui est conçu par les autres, les Palestiniens, comme leur patrie. 100% de la Palestine est considérée par les Juifs comme la patrie du peuple juif, et 100% de la terre d'Israël est considérée par les Palestiniens comme leur patrie. On n'est pas sur l'Alsace-Lorraine. Il y a la France, il y a l'Allemagne, et puis ils se disputent un territoire que chacun revendique. Là, c'est l'intégralité du territoire que l'un appelle la Palestine, l'autre appelle la terre d'Israël. Et à cet égard, le conflit n'est pas religieux. Le religieux, c'est le carburant. C'est ça qui va donner une dimension d'absolu, une dimension de profondeur historique, une sorte de dimension solennelle. Mais foncièrement, c'est un conflit national.
Je quitte le quartier musulman de la vieille ville et m'enfonce un peu plus dans Jérusalem-Est pour retrouver l'avocat Ziyad Amouri. Il était adolescent pendant la guerre des six jours et la conquête des territoires.
Je me souviens qu'il y avait de la résistance contre l'occupation, à tous les niveaux. On faisait la grève au lycée, nos profs faisaient la grève aussi. On pensait que l'occupation n'allait pas durer, que Jérusalem serait libérée au bout de quelques mois et qu'elle reviendrait à la Jordanie. On ne pouvait pas imaginer à ce moment-là que ce serait une très longue occupation et qu'elle durerait 50 ans jusqu'à aujourd'hui. Après avoir annexé Jérusalem, ils contrôlaient tout le territoire. Il était très clair que le projet, c'était d'annexer, de contrôler toujours plus de terres, particulièrement à Hébron, où les premières colonies se sont implantées.
Cette prise de conscience-là, conduit les autorités politiques de l'époque à considérer qu'on a cherché à faire la paix depuis 67 avec le monde arabe, sans les Palestiniens, et qu'on ne peut pas faire l'économie d'un dialogue avec les Palestiniens. Et ça va conduire aux années d'Oslo, avec cette conviction que finalement le conflit entre Israël et les pays arabes n'était pas un vrai conflit. On ne s'était pas emparé d'un territoire égyptien ou syrien, ou en tout cas on pouvait justement faire une monnaie d'échange et avoir la paix avec l'Égypte. Donc le fond du problème, c'était le fait que deux peuples se disputaient la même terre et que, voilà, il fallait tenter cette solution-là. Et c'est ça, je dirais d'une phrase, l'échec de la gauche aujourd'hui, politique. Elle a tout misé sur l'idée que, en contrepartie du retrait des territoires, il y aurait la paix.
Israël et l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, signent le premier accord sur l'autonomie palestinienne, jetant les bases d'une réconciliation entre Israéliens et Palestiniens. Nous sommes en octobre 1993. Yasser Arafat et Yitzhak Rabin échangent une poignée de main historique. Écoutez le discours ému du premier ministre israélien. Il sera assassiné deux ans plus tard, en 1995.
Let me say to you, the Palestinians.
Laissez-moi vous dire, vous les Palestiniens, nous sommes destinés à vivre ensemble, sur le même sol, sur la même terre. Nous, les soldats qui sommes revenus de la guerre, tachés de sang, qui avons vu nos amis et nos parents tués devant nos yeux, nous qui avons assisté à leurs funérailles, et qui ne pouvons pas regarder leurs parents dans les yeux. Nous qui sommes venus d'un pays où les parents enterrent leurs enfants. Nous qui vous avons combattu, les Palestiniens. Nous vous disons aujourd'hui, d'une voix claire et forte, le sang et les larmes, ça suffit, ça suffit.
Well, first of all, I'm Palestinian and I'm an Arab. And I was supporting really the peace process.
Eh bien, avant tout, je suis un Palestinien et un Arabe. Et je soutenais vraiment le processus de paix. J'avais la conviction que les accords d'Oslo pouvaient nous conduire à la paix et à notre propre État.
In Oslo, we lost also most of our lands. We were accepting to have a state on 22% of our historical land as Palestinians.
À Oslo, nous avons perdu la majorité de nos territoires. Nous avons accepté un État constitué de 22% de notre terre historique en tant que Palestiniens. En vérité, notre espace continue à se restreindre au regard des implantations sauvages et des colonies toujours plus nombreuses en Cisjordanie, et pas seulement à Jérusalem. Et aujourd'hui, nous avons perdu Jérusalem. Et en tant que Palestiniens, nous avons peur de ne pas pouvoir continuer à y vivre.
I thought we and some friends that maybe we can try through.
J'ai pensé, avec quelques amis, que nous pouvions peut-être passer par le système judiciaire israélien afin de défendre l'existence des Palestiniens. Puisque les Israéliens parlent de démocratie, affirment être la seule démocratie de la région au Moyen-Orient, nous avons pensé que cela pourrait peut-être nous aider d'aller devant la cour israélienne.
Après 20 ans, je suis convaincu that the legal system is against us.
Mais aujourd'hui, 20 ans plus tard, j'ai la conviction que la légalité est contre nous, les Palestiniens. Lorsqu'ils contestent nos propriétés, on ne peut pas les arrêter. Lorsqu'ils viennent démolir nos maisons, on ne peut pas les arrêter. Lorsqu'ils veulent nous déplacer hors de la ville, on ne peut absolument rien faire. Et pourtant, nous avons des députés palestiniens à la Knesset. Ils sont 13 députés arabes, israéliens. Nous avons uniquement réussi à différer les démolitions pour quelques années, quelques mois. Mais les maisons ont toutes fini par être démolies. Ici, à Jérusalem-Est, nous comptabilisons plus de 200 000 ordres de démolition validés par la justice. C'est absolument énorme. Et cela montre qu'il est en réalité impossible de gagner contre la loi de l'État, parce que dans ce système, lorsque l'on touche au problème de la colonisation, on touche à un problème politique, et la justice ne fonctionne plus.
Well, still, I have a hope. Still, and as a Palestinians, maybe.
Eh bien, j'ai encore de l'espoir. J'ai toujours de l'espoir en tant que Palestinien. Le monde entier peut voir que même à Gaza assiégé, les gens se battent parce qu'ils pensent justement qu'il y a un espoir.
The Palestinians in Gaza, like the Palestinians in the West Bank, they were convinced that.
Les Palestiniens de Gaza, comme les Palestiniens de Cisjordanie, sont convaincus de la nécessité d'un État palestinien basé sur les frontières de 1967. Mais aujourd'hui, nous sommes convaincus qu'il n'y a aucune possibilité d'établir un tel État, car Israël ne le veut pas. Ils veulent s'accaparer l'intégralité de la terre d'Israël et contrôler l'intégralité de nos vies. C'est pour cela que nous manifestons contre les projets israéliens.
Écoutez Israël au pluriel dans la marche du monde. Au son de l'hymne israélien, nous retrouvons notre grand témoin, Lucien Lazare. Il a tout vécu, la naissance de l'État hébreu, la Seconde Guerre mondiale, la résistance et la Shoah, le départ de la France pour Israël en 1968 et la succession des guerres où il a vu partir ses enfants dès 1973 et l'attaque de l'armée égyptienne lors de la fête juive de Yom Kippour.
Mon fils aîné, Daniel, a été recruté un an après son établissement à Jérusalem, à l'âge de 18 ans, et il a servi comme parachutiste et il a participé à la guerre d'usure sur le front égyptien, dans la péninsule du Sinaï. Il a été légèrement blessé par un éclat d'obus qui a traversé son blouson. Et ensuite, il a été recruté comme soldat de réserve lorsqu'a éclaté la guerre de Kippour. Son frère, Michel, a été recruté également à l'âge de 18 ans en 1971. Ils ont donc participé tous les deux à la guerre de Kippour. Et il s'est trouvé que pendant cette guerre, Janine, qui est psychologue, clinicienne, et travailler dans des équipes de psychologues auprès des familles dont le mari ou le fils était blessé ou était tombé au combat ou était porté disparu. Et elle a eu des expériences très très difficiles à supporter et elle a acquis la certitude que la guerre est la pire des conditions de la société humaine. Et qu'on paye toujours un prix plus lourd pour la guerre que le prix qu'il faut payer pour la paix. Et nous avons milité, nous sommes devenus des militants qui souhaitent que l'État d'Israël consente à payer le prix qu'il faut payer pour cette paix. Ça n'est pas indifférent, ça n'est pas facile. Jusqu'à présent, ça n'est pas un objectif qui fait partie de nos équipes gouvernementales. Et nous nous sentons vraiment confinés dans une minorité qui ne réussit pas à faire école. Et ça a été une constante de toutes les années que nous avons vécues depuis la guerre de Kippour, depuis aussi la guerre du Liban qui a confirmé les enseignements ou les conséquences que nous avons tirées de la guerre de Kippour et qui malheureusement n'a pas été la dernière des aventures militaires d'Israël. Chacun de mes quatre enfants et une partie de leurs proches aussi est engagé dans des aventures qui consistent à faire se rencontrer et faire vivre en commun des Juifs et des Arabes palestiniens. Ça a été pour Janine et pour moi aussi longtemps que Jeanine était de ce monde, une très grande consolation et nous a apporté la certitude qu'il finirait par triompher et par avoir raison. Et c'est ce qui continue à se poursuivre à l'heure actuelle. Il participe à l'écriture d'une page d'histoire qui sera la source des lendemains que connaîtra Israël dans cet avenir qui doit être celui d'un voisinage pacifique, sinon d'une coopération active entre Israéliens et Palestiniens.
Festival de musique Klezmer, porte de Jaffa, Jérusalem. Je revois les visages de celles et ceux que j'ai rencontrés. Juifs orthodoxes vêtus de noir, palestiniens coiffés de leur keffieh, immigrés de toutes les origines. Et je réalise combien toutes et tous sont confrontés d'une façon ou d'une autre à ce conflit israélo-palestinien. À part les ultra-religieux et les arabes israéliens, les fils et filles d'Israël passent également tous par un service militaire actif.
D'abord, je ne pensais jamais venir faire mon service militaire en Israël. Ce n'est pas du tout dans ces termes que je le pensais.
David Aboukaya est un jeune Français de 19 ans lorsqu'il immigre au kibboutz en Israël.
Le kibboutz est extrêmement impressionnant de là où je viens, puisque c'est une collectivité où vous avez cette espèce d'image d'épinal ou de mythe de l'Israélien avec une mitraillette d'un côté et une pelle de l'autre. Où les gens sont en sandales, extrêmement simples, extrêmement ouverts. Pour un jeune Français, c'est énorme, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on rencontre des jeunes d'abord très jeunes, avec des responsabilités, au kibboutz, à l'armée, dans l'industrie, on voit des gens avec une énergie, avec une détermination. Pour moi, c'était bluffant. Et à un moment donné, au bout de 6-7 mois, je me dis, il faut que je choisisse. Parce que je sens bien que pour tous les gens qui sont autour de moi, les jeunes Israéliens de mon âge, j'ai donc 21 ans, ils sont l'armée. Leur réalité, c'est l'armée.
L'armée, c'est le creuset de la société. C'est-à-dire, c'est le lieu où toutes les classes, toutes les origines vont se retrouver. Et elle va remplir une mission éducative essentielle pour l'intégration des nouveaux immigrants. Et puis parce que il est clair qu'elle est l'institution clé. C'est celle qui va fournir aux Israéliens le sentiment de leur puissance par rapport à la fragilité intrinsèque de l'État d'Israël. 3 ans pour les hommes, 2 ans pour les femmes, toujours au nom de cette idée de l'égalité entre les sexes et pour justement renforcer cette unité. Tout le monde y va, et je dirais qu'au moins des années 50 aux années 90, on a le sentiment, on a la conviction que c'est un devoir. Tzal, c'est le peuple, et le peuple, c'est Tzal.
Donc j'ai décidé à ce moment-là de prendre la nationalité israélienne, en sachant pertinemment qu'on va m'appeler à l'armée. Mais à l'époque, en tant que jeune Français de gauche, pour moi, il était évident que je serais... dans un job non combattant. Enfin, je me retrouve dans une unité combattante. Et puis la guerre du Liban éclate. Donc je me retrouve au front. Je me retrouve au Liban pendant près de 2 ans. Avec en plus le mouvement dans la population israélienne qui est contre la guerre. Donc c'était un moment assez compliqué pour moi.
La guerre du Liban, elle est évidemment marquée par les massacres de Sabra et Shatila à l'automne 82.
Oui, Sabra et Shatila, c'est un symbole très fort. Alors, comme rien dans l'histoire ou dans la vie, rien n'est jamais aussi simple. Il faut savoir que les chrétiens se sont vengés de l'OLP et des Palestiniens parce qu'effectivement, depuis des années, les Palestiniens avaient investi les villages du sud Liban et avaient commis pas mal d'atrocités. C'est vrai. Le fait qu'il ait fallu intervenir au Liban me semble une évidence militaire pour nous. En revanche, je ne pouvais pas être d'accord avec la volonté à l'époque de Ariel Sharon, qui était quasiment d'investir le Liban. J'ai malheureusement été confronté aux phalanges chrétiennes et j'ai vu à quel point ça ne me semblait pas normal ce qu'ils faisaient. Ça a été un peu notre Vietnam ou notre Algérie à nous, ça c'est clair. Et effectivement, une des choses qui était déjà en moi, mais qui est devenue encore plus fort lors de ce conflit, c'est ma haine totale du religieux. C'est la profonde conviction que le religieux a certainement une aide pour beaucoup de gens et qu'il a un rôle dans la société humaine. Et je comprends ce rôle, mais qu'il a un prix, le prix à payer est énorme et me semble aujourd'hui trop fort.
L'écrivain israélien Amos Oz dit « Israël est une fédération de rêves ». Alors pourvu que ça ne tourne pas au cauchemar, mais chacun exprime ses revendications, exprime ses griefs, personne, je dirais, ne se censure. Et je dirais que dans une société comme Israël, cette démocratie de la parole, cette parole en permanence revendicatrice, elle constitue l'équilibre sur lequel tout repose. Israël, pour moi, c'est l'exercice quotidien d'une tolérance de tous les jours, d'une tolérance obligatoire.
Je suis le fruit déjà d'une union d'une Française d'origine russe-polonaise avec un Algérien français. J'ai un passeport israélien et un passeport français. Je parle 5 langues. J'ai voyagé dans le monde entier. J'ai des amis dans le monde entier. Entre les années 86 où je suis parti et les années 2007-2008, c'est plus la même Israël. Le high-tech, l'immobilier, le pays a énormément évolué et il y a des opportunités de travail.
Il est revenu en Israël à l'âge de 48 ans. David Aboukaya est devenu entrepreneur. Il conjugue sens des affaires et franc-parler et n'a rien à cacher. C'est au cœur de son restaurant situé à Jaffa, l'ancienne ville arabe fusionnée avec Tel Aviv, qu'il s'exprime publiquement.
Donc je reviens en 2007-2008 pour faire de l'immobilier principalement. Et lors d'une de ces opérations immobilières, je prends une partie d'un immeuble et j'en fais un bar à vin. Donc ça commence comme ça, un peu par hasard. Donc le mélange de système D, de manque de hiérarchie, de liberté de parole et de défense du pays a créé une société extrêmement dynamique, avec des relais extrêmement courts. Les choses vont très vite. Le juif qui vient du Yémen, des États-Unis ou d'Allemagne, il a une histoire dans ses racines qui est de bouger, de réagir, de s'adapter. C'est pas parce qu'il est juif que c'est mon frère, c'est faux. Mon frère ou ma sœur sont les gens qui partagent mes valeurs. J'ai beaucoup plus de points communs avec un Palestinien laïque qu'avec un juif extrême religieux.
Est-ce que vous pouvez encore dialoguer justement avec, on va dire caricaturalement, avec le colon israélien ?
Il y a un conflit territorial qui a été transformé en conflit ethnique ou religieux. C'est diabolique. Mais comme dans beaucoup de conflits, le problème, c'est les dirigeants, c'est pas les populations. J'espère la paix. J'espère que les Israéliens, qu'une grande partie de la population israélienne va arrêter de jouer à l'autruche et s'enfoncer la tête dans le sable dans cette société hédoniste et en plein développement. J'ai beaucoup de mal avec le nationalisme. J'ai du mal avec les drapeaux. J'ai un problème avec les hymnes nationaux. Qu'ils soient américains, français ou israéliens, ils m'emmerdent. Je suis très bien ici. J'ai mes amis. J'ai ma famille. J'adore être ici, j'ai un restaurant qui marche très bien, je suis très content. Je pense que c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de réduire les gens à une nationalité.
My name is Amal Rehan. I live in Jaffa. I have 4 children. I am a teacher.
Je m'appelle Amal Rehan. Je vis à Jaffa. J'ai 4 enfants et je suis professeur. Je suis socialement engagée dans le mouvement Women Reach Peace.
I am an Arab and I'm Muslim. My parents are Muslims too.
Je suis arabe et je suis l'enfant d'une famille musulmane de Tel Aviv. À ma naissance, mon père m'a nommée Palestine. Ce prénom m'a posé pas mal de problème. Et si tu veux, je peux te raconter mon histoire.
Suite à la guerre israélo-arabe de 1948, la famille d'Amal Rehan n'a jamais pu récupérer sa maison, dont elle conserve précieusement les titres de propriété. Et c'est en lieu et place de son foyer familial qu'a été construit l'hôtel Continental de Jaffa.
Et forcément aujourd'hui, même si une partie de ma famille vit à Tel Aviv, nous sommes dispersés en Égypte, en Jordanie, au Liban, partout. partout dans le monde. Si je dis « je suis israélienne », des Arabes vont se mettre en colère et ils vont s'en prendre à moi, me demander pourquoi je dis ça et pourquoi je ne dirais pas « je suis palestinienne ». Mais moi, je ne sais pas ce que je suis. Quand je suis née en 1975, mon père m'a appelée Palestine. J'étais scolarisée à l'école privée, là où j'enseigne aujourd'hui et où mes propres filles étudient. À l'époque, mon père tenait un restaurant, mais le maire lui a fait beaucoup de problèmes et il a dû fermer parce qu'il était arabe. Je suis partie à l'école publique et quand j'étais à l'école primaire, en CE1, j'avais 7-8 ans, l'infirmière a pénétré dans la classe. Son nom était Nourit. Elle avait une liste et puis elle a demandé « Qui est Palestine Rihan ?» Moi, j'étais terrorisée. Je lui ai dit « C'est moi. C'est quoi ton nom ?» Je ne veux plus jamais de ce nom. Et elle l'a effacé. Je me suis sentie si mal et si blessée. Et après toutes ces années, je revis toute la scène, exactement pareil. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai demandé à mon père « Pourquoi tu m'as appelée Palestine ? J'ai trop de problèmes avec ce prénom. » Et il m'a répondu « Tu es trop jeune. Mais quand tu seras grande, tu comprendras que j'ai choisi pour toi le plus beau des prénoms. » Moi, je lui ai dit « Ok, mais quand je serai grande, il va falloir que ça change. » Ce que je veux dire aux gens, c'est que pour avoir la paix, il faut commencer par faire la paix avec soi-même. C'est en faisant la paix avec vous-même que vous pouvez prétendre à faire la paix avec les voisins qui vous entourent et avec tous les autres. Et j'ai rejoint Woman Wage Peace parce que j'ai rencontré des femmes exceptionnelles, des femmes fortes. On ne parle pas de politique, on ne parle pas de religion, mais de paix négociée et d'un futur meilleur. Nous avons découvert que nous avons beaucoup de choses en commun entre juives et musulmanes. Je ne mange pas de porc et elles non plus. On ne peut pas aller prier à la mosquée quand on a nos règles et elles ne peuvent pas non plus se rendre à la synagogue. Et aujourd'hui, j'enseigne l'arabe à beaucoup d'habitants juifs de Jaffa car ils souhaitent avoir de bonnes relations avec leurs voisins, les comprendre et être compris. Je trouve ça formidable et on en discute beaucoup. C'est ainsi que nous comprenons que Dieu est unique et qu'il faut cesser de nous détester pour ce que nous sommes. Je te hais parce que tu es musulmane et moi je te hais parce que tu es juive. Il faut qu'on arrête avec ça. Il faut que nous puissions continuer à vivre ensemble au même endroit, chacun comme bon lui semble, au sein de la même société, tout en nous respectant.
You know, when I met the Prime Minister Benjamin Netanyahu, he told us, I promise you that I want peace.
Quand j'ai rencontré le Premier ministre Benjamin Netanyahu, il nous a fait la promesse qu'il souhaitait la paix. Et il a ajouté, mais vous les Palestiniens, vous ne voulez pas la paix. Je lui ai dit que ce n'était pas le cas puisque justement notre mouvement travaille pour faire la paix. C'est exactement notre projet et c'est ce que nous voulons. On lui a demandé qu'il retourne s'asseoir à la table des négociations afin de négocier la paix, car ce n'est qu'en négociant que les deux parties pourront faire la paix.
I want you, if you heard about my speech in the Yitzhak Rabin member.
Avez-vous écouté mon discours au mémorial Yitzhak Rabin en 2014? Vous pouvez l'écouter sur YouTube.
Ani Amal Rehan, mora lesafa arabit, ima le'arba yeladim miyafo.
I was really happy to hear me.
Et j'étais vraiment très heureuse de m'entendre dire en hébreu que je suis une arabe, que je suis musulmane. Et pour la plupart des gens présents, c'était la première fois qu'ils écoutaient le discours d'une femme arabe dans ce mémorial.
Laissez-moi vous dire que je suis très ému. Je veux remercier chacune et chacun d'entre vous de vous être déplacé pour manifester contre la violence et pour la paix.
You know, there are a lot of Arab people were sad because Yitzhak Rabin was killed.
Vous savez que beaucoup d'Arabes étaient vraiment tristes parce qu'Yitzhak Rabin a été assassiné et beaucoup d'Arabes se sont sentis très mal. Il était le premier à avoir fait la paix. Pourquoi l'ont-ils tué ? C'était terrible. Et moi, j'étais sous le choc.
For my girls,
want peace, and I want you to ask them, my girls.
Mon espoir pour mes filles, c'est la paix, et je veux que tu leur poses la question. Mes filles sont pour la paix. L'une d'entre elles est chanteuse et elle se produit avec des juifs et des chrétiens. C'est merveilleux. Oui, nous chantons en trois langues pour la paix.
There is a song in Arabic, but it's like we do it.
En arabe, mais on les traduit. Quand on chante Imagine, on la chante dans les trois langues. En anglais. En hébreu maintenant.
Damien olam bli pachad, shebo nechye be'achad. I hope that we have peace in Israel and all around the world.
Mon espoir, c'est d'obtenir la paix en Israël et partout ailleurs, et d'obtenir l'égalité entre nous tous, et que les gens réalisent que nous avons un seul et même Dieu. Que nous soyons musulmans, chrétiens ou juifs, nous sommes les mêmes. Nous avons un Dieu et nous sommes des êtres humains. Et il nous faut résoudre ce conflit. C'est mon espoir et nous le ferons. Nous ferons beaucoup de choses parce que c'est mon prénom. Amal, cela veut dire espoir. Et nous voulons partager cet espoir avec le monde entier. S'achève le second épisode de notre documentaire Israël au pluriel, réalisé par Hugo Violas et Sophie Janin, les documentalistes Cécile Rogue et Laurence Sarniguet, ainsi que notre stagiaire Juliette Flamand. Tous mes remerciements à Denis Charby, le sociologue et auteur du livre Israël et ses paradoxes aux éditions Le Cavalier Bleu, à Lucien Lazare, auteur au seuil du tapissier de Jérusalem, ainsi qu'à David Aboukaya, Shlomo Aviner, Ziyad Amouri et Amal Riyan. Encore plus d'informations et des photos à découvrir sur les pages internet et Facebook de la Marche du Monde. Écrivez-nous, réagissez, podcastez. Cette émission, c'est la vôtre.